Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission Magnificat. Cette semaine, je reçois Jean-Paul Mongin, directeur des éditions de l'association Marie de Nazareth MDN Productions. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour France.
Et Justina, fidèle au poste.
Bonjour.
Bonjour Justina, vous développerez la troisième partie de votre enseignement sur la mère de Dieu, Théotokos. Puis nous terminerons en parlant du rosaire. Jean-Paul Mongin, nous n'allons pas mentir à nos auditeurs, nous nous connaissons. Puisque nous travaillons ensemble depuis un an déjà. Je croyais vous connaître, mais en faisant des recherches sur vous pour dresser votre portrait, j'ai découvert quelqu'un d'autre. Je résumerai en disant que vous êtes multicarte, vous avez travaillé dans tant de domaines, et papa de famille nombreuse, vous n'avez pas que des enfants de chair, mais vous êtes le papa de bientôt 40 petits platons et 2 tout petits platons. Vous connaissez le monde de l'édition, c'est pour cela que vous avez rejoint notre équipe. Quelle est la mission principale de votre maison d'édition ? Et racontez-nous cela sous forme d'histoire, car vous aimez beaucoup en raconter.
Effectivement. En fait, les éditions de Marie de Nazareth, dont je m'occupe depuis maintenant un an, sont nées dans le sillage de l'activité missionnaire de l'association. Il y a eu d'abord un certain nombre de propositions de livres qui ont été diffusés, pour certains, de manière extrêmement massive, dans des sanctuaires, dans des paroisses, visant à développer des dévotions mariales ou bien à faire connaître mieux les figures de grands saints qui peuvent nous accompagner. La maison d'édition de Marie de Nazareth s'est faite connaître également parce qu'elle a proposé une très large gamme de neuvaines qu'on peut trouver un petit peu partout. Et il y a vraiment une neuvaine pour accompagner chaque situation de la vie. Et puis, il y a depuis un an ou deux ans, des livres un petit peu plus traditionnels qui sont proposés, des livres d'apologétique notamment. Il y a un catalogue qui s'enrichit maintenant de propositions jeunesse, de bandes dessinées. Donc on est en train de devenir une véritable maison d'édition portée par la Vierge Marie, mais présente en librairie avec toutes les autres propositions éditoriales.
Vous avez des auteurs propres aux éditions MDN Productions ?
Alors, il y a toute une constellation d'auteurs qui interviennent pour les propositions de livres missionnaires, de livres témoignages. Et puis, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont effectivement fidélisés, des auteurs stars de la maison, qui sont parfois de jeunes théologiens très brillants, parfois des philosophes très, très émérites. On a publié cette année 2 écrits d'apologétique qui ont rencontré un public assez large. Le premier s'appelant « Et si c'était vrai » du philosophe Frédéric Guillot, qui soulève un certain nombre de grandes questions liées à la foi chrétienne. L'autre livre qui a un petit peu marqué les esprits s'appelle « Soyez rationnel, devenez catholique ». C'est donc là un jeune apologète qui s'appelle Mathieu Lavagna, qui a fait un véritable carton éditorial et bien d'autres sont à venir.
Alors, à propos de Mathieu Lavagna, vous me parlez de ce livre, mais je crois qu'il a condensé son livre pour de plus jeunes lecteurs, non ?
Oui, en fait, il a commencé en bon théologien traditionnel par sortir un pavé roboratif de 600 pages. Il en a fait une version ensuite augmentée, et puis ensuite on en a fait des versions abrégées, et on est en train de décliner ça dans des propositions missionnaires. Ça se terminera peut-être par des mangas, je ne sais pas.
Tout est possible. En tous les cas, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous serons heureux de l'accueillir bientôt dans notre émission. Alors, dites-moi, est-ce que vous pouvez un petit peu détailler davantage ce que vend MDN Productions ?
Alors, parmi en fait les livres que propose l'association Marie de Nazareth à travers MDN Productions, il y a une proposition qui est tout à fait originale et dont j'aimerais bien dire un petit mot aujourd'hui, qui est la proposition à Marie qui défait les nœuds. Je crois que vous avez déjà eu l'occasion d'en parler sur ces ondes, mais c'est vraiment
on y est très attaché.
C'est une dévotion qui est incroyable. Donc en fait, c'est cette dévotion qui est une dévotion d'origine allemande qui est restée relativement confidentielle jusqu'à la fin du XXe siècle et qui gravite autour d'un tableau où on voit la Vierge Marie dénouer précautionneusement les nœuds d'un ruban qui était un ruban traditionnellement passé autour des mains des époux lors des noces de cette région d'Allemagne. Et donc, elle figure Marie qui s'occupe de nos problèmes du quotidien, des problèmes de couple, mais aussi de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Et puis, cette dévotion, elle a connu un immense succès parce qu'elle a été promue par un jésuite du nom de Jorge Bergoglio, donc le futur pape François, qui a reçu un jour cette carte qui l'a beaucoup touché du tableau de Marie qui défait les nœuds. Et à la suite de cela, il y a une neuvaine qui a été écrite et qui connaît une diffusion extraordinaire.
Nous avons effectivement parlé de cette dévotion lors de notre première émission et du Père Céléro qui a donc écrit cette neuvaine. Est-ce que l'association Marie de Nazareth est proche de lui?
Alors, en fait, l'association de Marie de Nazareth diffuse cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds du Père Céléro en langue française et dans bien d'autres langues. Elle a été diffusée depuis une vingtaine d'années à plus d'un million d'exemplaires simplement en français et elle connaît un certain nombre de déclinaisons avec différents types de méditations, différentes adaptations aussi pour les situations de la vie.
Vous voulez dire par thème ?
Par thème, par exemple, Marie qui défait les nœuds pour les questions de souffrance liées au travail, pour guérir d'une maladie, pour les problèmes des couples en particulier. On lance une neuvaine à cette intention toute spécifique. On prépare aussi un calendrier de l'Avent autour de Marie qui défait les nœuds pour que des petits-enfants puissent aussi connaître cette dévotion. Et on reçoit toutes les semaines, je crois que vous êtes bien placé pour le savoir, des témoignages de grâce extraordinaires qui sont vécues à travers cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds. C'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier qui est en train de se passer autour de cette dévotion, d'un point de vue éditorial pour ce qui m'occupe, mais au niveau de la société tout entière en fait, parce que par cette dévotion, on est en train de retrouver quelque chose de ce christianisme très populaire qui permet de rejoindre les gens dans leurs préoccupations les plus quotidiennes et qu'on avait un petit peu perdu dans les 50 ou 70 dernières années avec cette érosion en fait des références chrétiennes. Et là, on voit des musulmans qui prient la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. C'est quand même complètement fou, quoi.
Oui. Et c'est très touchant parce qu'on voit les gens revenir à la prière parce qu'ils sont dans un tel embarras qu'ils se disent que finalement, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils vont prier cette neuvaine et ils reçoivent des grâces. Et donc, ça va bien au-delà, puisqu'ils reviennent pour certains à la fois grâce à cela. Alors, dites-moi, comment votre dévotion personnelle à la Vierge Marie influence votre travail d'éditeur ? La Vierge Marie veille, elle est toujours là, on le sait, mais bon, dans votre quotidien.
Je n'anticipais pas de passer à cette phase de quasi-psychanalyse, mais non, alors... Moi, ce que je peux dire comme petit témoignage personnel, c'est que mon travail d'éditeur à Marie de Nazareth, je le dois à Marie elle-même, en fait. J'avais, il y a un peu plus d'un an, un certain nombre de questions sur mon avenir professionnel, etc. Je suis allé prier la Vierge Marie, une belle statue que j'aime beaucoup dans la paroisse Saint-Ferdinand d'Éternes, où j'habite. Et j'ai mis un cierge à Marie, ce que je fais vraiment très rarement, et en sortant de l'église, mon téléphone sonne et un ami qui j'avais pas parlé depuis presque une dizaine d'années m'appelle et me dit: j'ai eu une inspiration en sortant de la chapelle, il fallait que je te parle et je voudrais te proposer un rendez-vous, etc. Très bien, etc. On convient d'une date de déjeuner, qui tournait, je crois, autour de la fête de la Nativité de la Vierge, précisément. Et c'est donc à cette date mariale, l'an dernier, que cet ami est venu et m'a proposé de m'occuper des éditions de Marie de Nazareth. Donc voilà, donc en fait, la Sainte Vierge, dont je sais bien qu'elle m'a toujours accompagné, parce que même quand, dans les turpitudes de ma jeunesse adolescente, j'avais perdu la foi, je continuais quand même à dire de temps en temps un « Je vous salue Marie » et par de nombreux signes, j'ai su qu'elle avait toujours été là. En fait, c'est elle qui m'a trouvé mon boulot et je bosse directement pour elle. Donc finalement, que rêver de mieux. Et du coup, enfin, c'est aussi une école parce que Marie, c'est à la fois celle qui a accueilli en son sein le Verbe. Donc quelle plus belle métaphore de ce qui est finalement un livre. Que la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est le plus beau des livres ouverts. C'est un livre à la fois de consolation, un livre qui n'est qu'offrande et un livre qui ne nous jugera pas.
Magnifique. Merci beaucoup.
Merci à vous,
chez Marie de Nazareth, on a tous été invités par la Vierge Marie pour y travailler. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, j'espère qu'on pourra vous revoir pour nous parler des ouvrages qui sortiront au moment de Noël. Donc, on sera très heureux de vous accueillir de nouveau.
Avec grande joie, merci.
Merci beaucoup. À présent, nous allons écouter un extrait du Magnificat, comme pendant tout le mois d'octobre. Cette semaine, le Magnificat de Pachelbel par le Buenos Aires Barroco, chœur argentin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Courtoisie et vous écoutez l'émission Magnificat. À présent, nous retrouvons Justina pour la troisième partie de son exposé sur la Vierge Marie Théotokos. Cette fois, nous allons nous plonger dans les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine et les débats christologiques qui en ont découlé.
Oui, bonjour France, bonjour chers auditeurs. Donc aujourd'hui, nous allons déjà entamer des choses un petit peu sérieuses, même si c'est vraiment dans un format aussi court, ce n'est pas évident, donc je vais devoir faire vraiment des grandes lignes, mais je vous invite toujours à aller plus loin et creuser mes propos. Donc, l'histoire de l'Église a toujours connu des mauvaises perceptions du Christ, pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est pas bien, mais savoir qui est le Christ et comment on comprend son être aurait des incidences directes sur comment nous voyons le salut et comment nous voyons la chute de l'humanité. Après la première vague des hérésies christologiques que nous avons mentionnées l'émission dernière, au IVe siècle, une hérésie qui est apparue pour combattre l'hérésie des arianistes. C'était l'apollinarisme, qui acceptait pleinement que Jésus-Christ est Dieu et homme à la fois, mais sans distinction des deux natures, et tout en affirmant, Apollinarius, donc l'hérésiarque qui était à l'origine de cette hérésie, était un fervent combattant contre l'arianisme, mais parfois, par excès de zèle, on invente une hérésie qui nous est propre. Entre autres, Apollinarius affirmait que le Christ a un corps humain, mais n'a pas d'âme humaine, ni d'intelligence humaine. Sauf qu'un autre principe qu'on retrouve chez les Saint-Pères dit « ce qui n'a pas été compris n'a pas été guéri ». Donc, comment on appelle un homme, quelque chose qui a le corps d'un homme, mais qui n'a pas d'âme humaine ou qui n'a pas d'intelligence humaine ? Un singe. Et les pères qui contredisent Apollinaire posent la question, mais alors le Christ s'est fait singe ? La réponse est bien évidemment non. Et pour contrer l'apollinarisme, il y a eu l'évêque Nestorius, un évêque qui était patriarche d'Antioche, qui, malheureusement, comme c'est toujours le cas dans l'histoire de l'Église, il y a une hérésie. Pour la combattre, on en vente une autre. Et après, il faudrait justement retrouver l'équilibre. Donc, c'est l'hérésie de Nestorius. Donc, au 5e siècle, Nestorius considère que Dieu ne peut avoir une mère et enseigne que le Christ n'est pas pleinement Dieu dès sa conception dans le sein de Marie. Et donc, il serait plus judicieux d'appeler Marie Christotokos, donc celle qui met au monde le Christ, le Messie. Car le logos divin descend, selon Nestorius, sur le Christ lors de son baptême dans le Jourdain. Ainsi, pour Nestorius, nous allons avoir un Christ qui aurait non seulement deux natures distinctes, la nature divine et la nature humaine, mais aussi deux personnalités distinctes, ce qu'on appelle aussi l'enseignement sur les deux fils.
Un Christ schizophrène.
Exactement, vulgairement parlant, Nestorius involontairement nous propose un Christ schizophrène. Et le problème se pose, est-ce que les apôtres, comme je disais, être chrétien c'est de voir le Christ à travers les yeux de ses disciples, est-ce que les apôtres seraient-ils d'accord avec l'idée qu'ils ont connu deux personnes distinctes dans un seul et même Christ ? L'Église a convoqué un concile à Éphèse en 431 afin de trancher si cette vision était appropriée et après des débats fortement animés. Quand je dis fortement animé, je parle aussi des bagarres qui ont eu lieu sur les lieux et même quelques moines qui sont décédés suite à des coups reçus. Mmh. Donc il y a le catéchisme et il y a le caratéchisme. Hein. Et après ça, le terme de mère de Dieu devient dogmatique et condamne publiquement tous ceux qui ne reconnaissent pas Marie comme mère de Dieu. Plus tard, en 451, lors du concile de Chalcédoine, le terme de Théotokos est réaffirmé une fois de plus et l'Église produit la formule christologique par excellence qui tranche sur toutes les hérésies christologiques, c'est-à-dire les hérésies qui parlent du Christ mais qui ne respectent pas l'équilibre. Donc la formule de Chalcédoine vise essentiellement l'apollinarisme, le monophysisme et le nestorianisme. Je vais juste citer un passage de ce qu'on appelle l'oros de Chalcédoine. Donc ça, on distingue ça des canons et des choses disciplinaires. C'est vraiment un texte dogmatique. Suivant donc les saints pères, nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour même engendré pour nous et pour notre salut, de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Un seul et même Christ, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et de l'autre nature étant plutôt gardée et concourant en une seule personne et en une seule hypostase. Comme nous pouvons constater selon ce texte dogmatique conciliaire, l'Église insiste bien sur les deux natures en Christ dès sa conception, tout en affirmant le titre de Théotokos. Donc on ne sous-entend pas que Marie serait une créatrice de son créateur, car le logos divin est ancré par définition et il est juste engendré de toute éternité par le Père.
Mais si on pose la question, qu'a enfanté Marie ?
Bah, là, on dirait que c'est encore. Si on parle de l'objet, c'est elle a enfanté un corps. Mais si on pose la question qui elle a enfanté, elle a enfanté Dieu, puisqu'il était déjà pleinement Dieu dès sa conception, dès l'Annonciation, et il était aussi pleinement homme.
Alors elle est donc pleinement mère de Dieu.
Exactement, et elle n'est pas créatrice. Et je vais continuer le développement la semaine prochaine.
Oui.
Nous allons parler de la perception de la femme dans l'Antiquité et dans les cultures religieuses différentes. Et nous allons pouvoir retracer même cette perception de la femme que nous allons retrouver dans le Credo de Nicée.
Très intéressant. Vivement la semaine prochaine, Justina.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Alors, comme je vous le disais en préambule de l'émission, nous allons parler cette semaine du rosaire, évidemment, au mois d'octobre, mois du rosaire. Savez-vous que dès les premiers siècles, Marie est très présente dans la prière des fidèles? Et dès le IIIe siècle, la Vierge Marie est évoquée sans être nommée, puisque reprenant les paroles de l'ange Gabriel à l'Annonciation, le « Je vous salue pleine de grâce » est prononcé lorsqu'on se tourne vers elle pour prier. Dès le IVe siècle, on trouve les phrases suivantes dans la liturgie de Saint-Jacques. « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes et béni le fruit de ton sein, car tu as engendré le sauveur de nos âmes. » Théotokos, Justina. La forme liturgique de la louange telle qu'on la connaît aujourd'hui est formulée au VIIIe siècle. On la retrouve dans les écrits de Jean Damascène. C'est au IXe siècle qu'il est rajouté le nom de Marie. Et au XIIIe siècle, la grande mystique Sainte Gertrude ajoute le nom de Jésus en conclusion du « Je vous salue Marie ». Dans les pays occidentaux, dans la liturgie latine, la partie de louange du « Je vous salue Marie » est officiellement rajoutée par le pape Saint Grégoire Ier. Elle ne se popularise cependant qu'à partir du XIe siècle sous le nom latin d'Ave Maria et devient la prière du peuple. La seconde partie du « Je vous salue Marie » quant à elle apparaît entre le XIIe et XIVe siècle, mais le protestantisme florissant bloque quelque peu le développement de cette prière. Au XVe siècle, grâce à une demande de son supérieur, un jeune chartreux rédige 50 courtes méditations aux clausules, non seulement en latin mais aussi en allemand. Son prieur est séduit par cette proposition nouvelle et l'envoie à divers monastères de son ordre. Puis Dominique, ce fameux chartreux, rédige une série de 3 fois 50 clausules en parallèle avec les 150 psaumes. Alors rassurons-nous, peu à peu, pour faciliter la mémorisation, on passe à l'usage que l'on connaît de regrouper les Ave en 15 dizaines, toutes introduites par un pater. On réduit ainsi le nombre de clausules qui passent de 150 à 15. Et voilà, le rosaire est né. Par la suite, on réservera l'usage du mot rosaire aux 15 dizaines de chapelets n'en désignant que 5. C'est ensuite au frère Alain de la Roche, né en Bretagne en 1428, entré dans l'ordre des prêcheurs que l'on doit sa diffusion. À la fin du XVe siècle, apparaît la formule « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs ». L'adjectif « pauvre », accolé à « pécheur », est ajouté plus tard. En l'an 1568, le grand saint Pie V ajoute aux paroles de l'Évangile « Marie, Mère de Dieu, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort ». En 1571, le pape Pie V institue comme fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre, déjà fête de la confrérie, en action de grâce pour la victoire de Lépante sur les Turcs, considérée comme un miracle obtenu par la prière du Rosaire. Puis en 1572, le même Pie V officialise la liste des 15 mystères. Le Rosaire devient alors la prière du peuple chrétien. Nous faisons un bond au XVIIIe siècle. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dont nous parlions dans notre première émission, et qui est vraiment le saint qui accompagne notre association, on se repose beaucoup sur lui et sa dévotion à la Vierge Marie. Il est un grand apôtre du rosaire. Et au XIXe siècle, Pauline Jaricot, dont vous vous souvenez sans doute de la béatification l'année dernière, lance le rosaire vivant à la grotte de Lourdes en 1858. Bernadette Soubirou récite le chapelet avec la Sainte Vierge. Bartolo Longo fonde à Pompéi un sanctuaire dédié à la Vierge du Saint-Rosaire. Et le pape Léon XIII consacre à la prière 12 encycliques, ce qui le fait appeler le pape du Rosaire. Au XXe siècle, à Fatima, dont nous parlions la semaine dernière, en 1917, la Vierge elle-même déclare aux trois enfants « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Je suis venue pour exhorter les fidèles à réciter chaque jour le chapelet, à faire pénitence pour leurs péchés et à changer leur vie. Alors, chers amis, cette prière bénie des cieux est un vrai lien qui nous unit à Jésus par Marie. Prions le chapelet, il t'en donne tant de grâce. De grands saints français ont œuvré au développement de cette prière, comme je vous le disais il y a quelques instants. Les liens entre la Vierge Marie et notre pays sont profonds. Je vous propose de les redécouvrir en gagnant notre livret missionnaire « Marie et la France » que nous offrirons par tirage au sort à 20 d'entre vous. Vous redécouvrirez notre passé et la richesse de l'héritage marial et chrétien de la France, ainsi que les fondements de la vocation mariale de la fille aînée de l'Église. Qui pourrait nier que les racines de la France plongent profondément dans les fonts baptismaux de Reims ? Alors, envoyez-nous un mail à Radio Courtoisie, le tout attaché, émission Radio Courtoisie, le tout attaché, @mariedenazareth.com. Nous serons très heureux de vous offrir donc ce livret Marie et la France. Donc, à 20 d'entre vous, nous en offrirons deux pour que vous aussi partiez en mission pour pouvoir en offrir un. Je vous raconte juste une courte anecdote. Alors que je tenais la permanence téléphonique de l'association, j'ai eu un appel d'un monsieur qui me disait être entré un peu au hasard dans une église et d'y avoir trouvé ce livret que le curé avait mis à la disposition des fidèles. Il a commencé par le lire par curiosité. Cela fait rejaillir en lui sa foi d'enfant. Il m'a dit « Je ne vous donne pas mon nom, mais sachez que je voulais vous remercier, car après la lecture de votre livre, je sais que la Vierge Marie m'a remis sur le chemin de la foi et je voulais rendre grâce en vous le disant. » Voilà, chers auditeurs, nous serons heureux de vous retrouver dès dimanche prochain, le 15 octobre à 17h30 sur les ondes de Radio Courtoisie. Bonne semaine, merci Justina, merci Jean-Paul. Chers amis de Radio Courtoisie, n'hésitez pas à aller sur notre site mariedenazareth.com. La semaine prochaine, nous continuerons donc à parler de Théotokos, Justina.
Oui.
Et nous aurons un invité que je serai très heureuse de vous présenter. Bonne semaine à tous. N'oubliez pas la prière du rosaire. À très bientôt.